Parmi les textes les plus connus de la Bible, il y a donc ce chapitre 3 de l'Ecclésiaste qui nous répète plusieurs fois « il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour guérir, un temps pour rendre malade, un temps pour tuer, un temps pour donner la vie, etc. » Pourquoi ce texte plaît-il autant ? Probablement d'abord parce que le livre de l'Ecclésiaste dans lequel il se trouve est un livre relativement facile à lire. Donc si vous voulez lire un livre dans la Bible, vous pouvez lire celui-là. On comprend tout, du début à la fin, ce qui est rare. C'est une sorte de sagesse populaire. C'est pas trop théologique et donc on aime bien. Mais en même temps, ce texte me gêne toujours un peu parce que si vous le lisez, vous verrez qu'il y a aussi quelque chose d'un peu désabusé là-dedans, en disant après tout, tout est vent, buée et poursuite du buée, tout est vent et poursuite du vent, et tout est relatif, et tout cela ne nous mène pas à grand-chose. Il y a quelque chose d'un peu cynique et désenchanté dans ce texte qui me pose un petit problème. Alors pourquoi ce passage sur un temps pour tout est-il si connu? D'abord, est-ce que c'est vrai? Ce texte en lui-même me gêne encore plus que l'ensemble du livre. Je dois le dire. Parce que quand on dit il y a un temps pour tuer, vraiment, oui, y a-t-il un temps pour tuer? Un temps pour haïr? Y a-t-il un temps pour jeter des pierres? Ce qui fait que chaque fois que je le lis, comme je suis gêné, je passe un peu vite sur les endroits désagréables et je m'étale sur les endroits agréables. Alors je lis, il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a un temps pour jeter des pierres et un temps pour pardonner. Mais c'est un peu malhonnête, avouez-le, le texte lui-même contient du bien et du mal. Alors comment le comprendre? D'abord, je crois que si ce texte plaît, c'est tout à fait à raison. Pas seulement parce qu'il est simple, mais aussi parce que c'est évident par rapport à ce que nous vivons, à ce que chacun vit. En effet, on n'est pas obligé de le lire comme une injonction, comme si on devait chercher le temps pour tuer, chercher le temps pour détruire, chercher le temps pour haïr. Mais c'est une sorte de constatation qu'il y a effectivement dans notre vie des tas de temps différents. Et nous avons vécu tout cela, des moments où nous recevons la vie, et parfois nous sommes dans le deuil, il y a des moments où on pleure et des moments où on rit. Il y a des moments, tout est un peu mélangé dans notre existence. Il y a dans notre vie du bien et du mal, des joies et des peines. Il y a des moments d'incertitude, il y a des moments de douleur et aussi de grande joie. Il y a des moments d'amour et aussi des moments de haine. Et donc, quand je lis ce texte, en fait, je me dis qu'il me ressemble. Voilà, c'est en quelque sorte un peu comme l'image de ma vie. Et c'est rassurant, je dirais, que quelqu'un le dise, parce que effectivement, il n'y a pas que du bien en moi, et je sais que c'est vrai en fait. Oui, il n'y a pas que du bien en moi. Il y a de la vie et de la mort, de la haine et de l'amour. Et donc, voir cela, ça me dit que ce texte est finalement proche de ma propre existence. Et puis, je dois dire que ce passage est d'une extrêmement tolérant. Et ça, ça me plaît. C'est-à-dire, il dit en fait qu'il y a de la place pour tout, sous-entendu pour tout le monde. Il y a un temps pour tout le monde. Rien n'est exclu et tout est accueilli. Et je pense que c'est important aussi. On ne dit pas, il y a un temps pour aimer, mais jamais pour en vouloir à quelqu'un. Mais oui, mais moi. Et en fait, ce texte accueille tout et tout le monde, avec le bien et le mal. C'est un texte d'une grâce absolue, je dirais, d'un accueil total qui fait que effectivement chacun a des expériences différentes dans sa vie, eh bien il y a un temps pour lui. Et chacun a des rythmes différents, eh bien il y a un temps pour chacun, pour tout le monde, tout ce qui est expérimenté, tout ce qui est vécu, toutes les orientations de chacun. Donc oui, il y a un temps pour tout, je dirais, il y a une place pour tout le monde, et il y a moyen, même dans sa vie, d'accueillir tout, le bien comme le mal. Parce que finalement, je crois que le secret de la vie, d'après la Bible, n'est pas d'essayer de faire en sorte que nous ne soyons que comme des petits anges, et que dans notre vie, il n'y ait que de l'amour, que du pardon, que de la bonté, que de la générosité, que du dévouement. Mais c'est de dire, dans votre vie, il y a de tout, du bien et du mal, eh bien, prenez tout ça, et avec tout ça, vous pourrez faire quelque chose. La sagesse, c'est de faire avec ce que l'on a. Et c'est un peu trivial, pardonnez-moi, mais je dirais que la vie, notre vie à nous, n'a pas la prétention à être un chef-d'œuvre de perfection. Ça m'arrive souvent de le dire aux uns ou aux autres, quand certaines personnes qui me rencontrent pastoralement déplorent l'imperfection de leur existence, le fait que tout ça soit vraiment pas exemplaire et qui vraiment ils n'arrivent pas à faire comme ils voudraient. Et il m'arrive souvent de dire, parce que je le pense, je ne sais pas si ça convient à ceux à qui je le dis, mais vous savez, la vie n'est qu'un gigantesque bricolage. C'est-à-dire que on fait un peu comme on peut, si vous voulez. Et donc, ça marche avec des bouts de ficelle, ça grince un peu, mais ça marche. Voilà, et c'est tout ce qu'on demande. On vous demande pas de faire la perfection absolue, ni d'être Jésus-Christ lui-même. On fait comme on peut. Et encore plus trivial, tenez, je dirais, j'utilise des petites comparaisons, mais mon Seigneur Jésus-Christ en a fait bien d'autres avant moi. Je dirais, la vie, c'est finalement un peu l'art d'accommoder les restes. Vous savez, on prend ce que l'on trouve dans le frigidaire et avec ça, on se dit comment je vais m'en sortir pour faire quelque chose de mangeable et de présentable à mes amis. Eh bien, la vie, c'est exactement ça. On prend les ingrédients qu'il y a dans sa vie avec un peu de tout et on va essayer de le mélanger, de les arranger pour en faire quelque chose de bon. Eh bien, on peut justement le faire. On peut y arriver, mais pour ça, il faut pas tout mélanger n'importe comment. Donc oui, il y a un temps pour tout, d'accord, je prends tous les restes qu'il y a dans mon frigidaire, mais s'il vous plaît, c'est pas une raison pour tout mélanger en vrac et me le servir dans une assiette, ça fonctionne pas du tout. Il faut quand même savoir comment on va s'y prendre. Et ce qui fait que, en fait, je suis... Si on ne lit que « il y a un temps pour tout », on rate quelque chose. Il y a quelque chose de faux là-dedans. Certes, on accueille tout, mais qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va en faire? Parce que si on en reste uniquement à ce passage sur « un temps pour tout » et qu'on ne lit pas ce qui suit, ce que j'ai fait là, je vous ai lu après, à partir du verset 9, eh bien, on risquerait de croire que le dernier mot de la Bible, et c'est une espèce de relativité temporelle, accueillant tout et vivant au jour le jour en disant tout se vaut, tout est égal, la vie, la mort, l'amour, la haine, tout ça, ça ne change rien. Et d'ailleurs, vous disais-je, ce n'est pas ce que veut dire l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste dit oui, quand je fais le catalogue de ce qu'il y a dans les temps de ma vie, je trouve un peu de tout, d'accord. Et ensuite, il continue, dans quelques versets en tout cas, que personne ne lit jamais, ce qui est une erreur. Et ça, je l'ai découvert, ces quelques versets-là, grâce, on est toujours évangélisé par quelqu'un, grâce à la fille de ma chère collègue Florence, qui s'est donc mariée il y a 15 jours, et qui avait choisi ce texte, et qui a mis justement la suite du « Un temps pour tout », et ça m'a permis de comprendre en fait ce texte. Donc voilà ce que dit l'Ecclésiaste après. Il dit en fait, certes il y a un temps pour tout, mais il dit « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » Ah, voilà, on n'est pas simplement dans le relativisme temporel, mais il y a aussi de l'éternité. Et il dit, encore un peu plus loin, au verset 14, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure toujours. » Donc il y a quelque chose qui échappe à cette relativité temporelle, il y a un temps pour ceci, un temps pour cela. C'est toujours le temps de Dieu. Et indépendamment de cette quête, de cette relativité que j'observe, il y a dans l'esprit de l'homme, dit l'Ecclésiaste, un désir d'éternité, c'est-à-dire de quelque chose justement qui n'est pas temporel. Parce que oui, dans la vie, il faut des points de repère. Et tout n'est pas relatif. Non, non, tout n'est pas possible. Il faut des choix, il y a des orientations, il y a des choses qui sont intangibles, intemporel, et il y a des choses pour lesquelles il n'y a pas un temps où elles pourraient ne pas être. Et c'est d'ailleurs assez amusant parce que, effectivement, c'est le paradoxe de ce texte qui est souvent choisi pour des mariages, par exemple. Et les mariés, contrairement à celle que je vous évoquais, qui a eu la sagesse de mettre la suite du texte, ne mette que « il y a un temps pour tout ». Et alors, c'est tout à fait contradictoire parce que un engagement de mariage, c'est tout sauf du temporel. On dit pas aux jeunes mariés, écoutez, aimez-vous, et puis il y a un temps pour se détester, puis engagez-vous pour vous marier, puis il y aura un temps pour divorcer. L'engagement que prennent les jeunes époux au mariage, c'est pour toujours, pour la vie. C'est pas pour un temps, c'est pas pour un moment. Et un mariage, c'est justement de dire, j'ai un projet de vie pour mon existence que je veux inscrire dans la durée, pour tout le temps. Pas pour un moment simplement, mais dans la durée. Alors certes, je le sais, que ça peut arriver qu'on se sépare et on peut avoir un projet et finalement le projet ne se réalise pas. Et une fois de plus, j'accueille cela, comme le dit le début du texte. Effectivement, il y a un temps pour tout, il y a aussi des temps pour l'échec. Voilà, ça arrive et je l'accueille avec bienveillance. Mais la volonté n'est pas là. La volonté elle-même, c'est pas qu'il y a un temps pour mourir, c'est pas qu'il y a un temps pour haïr, c'est pas qu'il y a un temps pour jeter des pierres et lapider, c'est pas qu'il y a un temps pour détruire. Ma volonté, mon projet et la volonté de Dieu créatrice, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la paix et le pardon. C'est pas le reste. Donc il y a certes un temps pour tout, mais il y a quelque chose au-delà de cette relativité qui est la parole de Dieu, et qui est la volonté de Dieu, qui est l'éternité de Dieu. Donc, il y a quelque chose qui dépasse cette relativité totale qui est donnée. Alors, vous disais-je, la vie est l'art d'accommoder les restes, certes, mais qu'est-ce que je vais faire de ce divers pur de mon expérience humaine où je trouve de l'amour, de la haine, de la construction, de la démolition, de la réussite et de l'échec? Qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je peux en faire quelque chose si j'ai une idée de ce que je vais en faire, un but, un objectif, un projet à partir de cela. Si je mélange au hasard, je ne ferai rien de bon. Et donc, il y a tout ce travail de réflexion en amont qui est de se dire comment, à partir de ça, je vais réussir à faire quelque chose d'intéressant et de positif. Ça, c'est l'idéal. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi dans la Bible, je l'ai souvent dit, n'est pas le sentiment de l'émotion religieuse. La foi dans la Bible, c'est la conviction, c'est l'orientation de sa vie, ce que l'on croit vrai, c'est là où on veut aller, c'est ce que l'on considère comme essentiel, vital, fondamental en quelque sorte. Donc, c'est ça qui nous sauve, c'est la foi, c'est-à-dire où je veux en aller là-dedans et comment je vais faire en sorte que j'arrive à accommoder toutes ces choses diverses, variées, bonnes ou moins bonnes de mon existence. Et ma conviction, c'est qu'effectivement, c'est la foi qui sauve. C'est-à-dire que si vraiment j'ai une volonté de faire quelque chose de positif, tout peut devenir au service de cela. Le bien comme le mal, la souffrance comme la joie, la peine comme les rires. Parce que, nous dit Paul en Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup, qui comporte le risque d'être interprété comme de la superstition. Si vous aimez Dieu, vous n'aurez que des chances et des avantages dans la vie, ce qui est évidemment faux. On commençait par Jésus-Christ, qui n'a pas franchement eu une vie tout à fait enviable. Enfin, mourir à 33 ans, cloué sur une croix, c'est pas hyper top comme projet de vie. Et donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que si on a une vraie visée de Dieu, une écoute de sa parole, qu'on s'aligne sur sa volonté créatrice, tout peut devenir à son service et tout peut concourir au bien. Les meilleures choses et les moins bonnes. Parce que même les choses les plus difficiles, il y a moyen de les intégrer dans quelque chose de positif pour un projet qui le dépasse. Et on a tous des exemples. Tenez, regardez même ceux qui ont le plus de succès dans les acteurs de cinéma ou autres. Il y en a qui sont remarquablement beaux et tout à fait bien comme il faut, mais le nombre d'acteurs qui ont eu des succès énormes par des sortes de particularités physiques, voire de difformités, est considérable. Et toujours dans ma série des mariages de l'été, je suis allé faire un mariage à côté de, en Toscane, à côté de Pise. Et donc, évidemment, j'ai vu cette tour penchée, que les gens se précipitent du monde entier pour voir cette tour penchée, qui est en fait juste une tour ratée. Elle aurait été droite, personne n'irait la voir, et elle ennuierait tout le monde. Et en fait, quand le pauvre architecte, en 1300, je sais pas quoi, a construit sa tour et qu'elle a commencé à se pencher, il a dû être désespéré en se disant « mais je suis déshonoré, je suis la risée de tout le monde, ma tour est complètement loupée, c'est effroyable ». Et en fait, eh bien, c'est devenu un des bâtiments les plus beaux de toute l'Italie, du monde entier. C'est quand même assez étonnant. Donc même le mal peut devenir source de bien. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Même le mal peut devenir source de bien. Et ça n'est rien d'autre, ce que je vous dis, que la prédication de la croix. La croix dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette souffrance du Christ, cet échec de sa mission, en tout cas apparemment, de Jésus qu'on crucifie, qu'on met à mort, qu'on rejette, qu'on écarte, eh bien la croix récupérée par Dieu devient le signe de l'espérance en disant, écoutez, il n'y a aucun échec, aucune souffrance, aucune mort, rien dans votre existence qui ne puisse être, avec la confiance en Dieu, récupéré pour sa plus grande gloire et pour votre bonheur. Donc voilà, pour nous, vous disais-je, l'important c'est d'avoir une idée directrice et de tout mettre au service de cette idée directrice. Parce que le bien et le mal, en fait, sont des éléments neutres. Et même les épreuves peuvent être source d'énergie. C'est vrai, et on a besoin d'énergie. Et même les contrariétés peuvent être source d'inventivité et de créativité. Quand les choses ne se passent pas comme on avait voulu, très embêtant, je le conçois, mais ça force à recalculer, repenser et inventer autrement que ce que l'on était. C'est merveilleux. Et donc, effectivement, dans le temps de Dieu n'est pas ce temps où tout est relatif. Le temps de Dieu, c'est celui de l'éternité, du durable, du pérenne, de l'éternel. C'est pas le temps du jetable, du passager ou du relatif. Et en même temps, Dieu lui-même arrive, d'après toujours l'Ecclésiaste, en 3.15, arrive à même nier le temps quand il dit « Dieu peut ramener ce qui a disparu ». Étonnant. Alors, du coup, faut-il abandonner toute notion de temps et prétendre vivre dans l'éternel de Dieu? Eh bien, non, je ne crois pas. Pourquoi? D'abord parce que on en est incapable. On ne pourrait pas vivre dans cette espèce d'éternité de Dieu et d'abandonner ce lien qu'on a avec le temps en général. Toujours dans notre chapitre 3 de l'Ecclésiaste, au verset 11, il dit « Donc Dieu a mis dans le cœur de l'homme l'éternité », mais il continue en disant « Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin ». Donc en fait, cette éternité divine, elle est incompréhensible en tant que telle, inassimilable pour l'homme, parce que l'homme n'est pas Dieu, l'homme est incarné, il est imparfait, et donc nous ne pourrons jamais vivre comme des anges, comme des purs esprits, en étant indépendants de tout ce qui nous arrive. Nous vivons dans le temps, ici même, et pas dans l'éternité, et donc il faut l'assumer. Alors comment assumer ce rapport au temps? Eh bien, l'Ecclésiaste donne quelques réponses. La première, j'ai commencé par là, en disant, bah, écoutez, d'abord acceptez-le avec tolérance et bienveillance. Il y a un temps pour tout, assumez-le. Après, l'Ecclésiaste, toujours dans la suite de ce texte, qui est peut-être plus intéressante que le début, au verset 12, il dit « Il n'y a rien de bon pour l'homme si ce n'est de se réjouir et de faire ce qui est bien pendant sa vie. Et pour tout homme, manger, boire, voir ce qui est bon au milieu de tout son travail est un don de Dieu. » Un peu plus loin, toujours l'Ecclésiaste, il dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, profite de ta jeunesse, etc. » Donc, première chose un peu triviale, pardon, un peu simple, puisqu'il y a un temps pour tout, au moins essaye de ne pas passer à côté des temps positifs et agréables. Ça peut sembler un peu simple, mais c'est pourtant pas si facile. Et donc, puisqu'il y a un temps pour tout, il y a un temps forcément dans votre vie pour des bons moments, profitez-en, mes amis, profitez-en. Voilà. Profitez-en. Profitez-en pour vous nourrir de force, de joie, de bonheur. Dans toute vie, il existe des parcelles de joie et de bonheur. Et dans toute vie, puisqu'il y a un temps pour tout, il y a ces temps positifs. Il faut les prendre et construire dessus. Et en disant ça, je prêche à l'encontre de mon éducation calviniste et austère, disant qu'il ne faut s'offrir aucun plaisir, il faut vivre forcément dans l'austérité, dans la dureté, le rejet de tout contentement, etc. Non, pas du tout. Ce serait une offense à Dieu. Vous avez des chances de votre vie. Premier devoir, profitez-en. Voilà, c'est comme ça. Et quant aux épreuves, eh bien, j'aurais qu'un mot, patience. Prenez patience. D'abord parce que, en général, après la pluie, le beau temps, ça semble un proverbe de nos campagnes, mais c'est dans les psaumes, bon, voilà. Et puis, dans les moments d'épreuve, souviens-toi des jours heureux. Bah, ça aide, après tout, on a une mémoire, autant qu'on se souvienne des bonnes choses, ça peut aider à vivre. Et encore dans l'Ecclésiaste, qui finalement n'est pas si idiot que ça, au chapitre 7, verset 14, il dit quelque chose qui m'a toujours semblé d'une sagesse extrême concernant ces questions-là. Il dit « Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. » Voilà, c'est génial ça. Au jour du bonheur, profites-en, et au jour du malheur, réfléchis, et tu avanceras. Après, il y a la réponse de l'Évangile, toujours comment gérer ce rapport au temps. En Matthieu 6, tout ce passage sur les soucis du monde, en gros, Jésus dit, écoutez, vous préoccupez pas trop du temps, ni du passé révolu, qui de toute façon est passé, ni de l'avenir qui vous angoisse, vous verrez bien, à chaque jour suffit sa peine, et Dieu, le lendemain, prendra soin de lui-même. Alors, ce n'est pas un appel à l'irresponsabilité, évidemment, qu'on doit se préoccuper de l'avenir, de nos enfants, de la planète, de nous-mêmes. Enfin, faut être responsable, quoi. Bon. Mais c'est une invitation à ce que cette préoccupation de l'avenir ne vienne pas détruire la possibilité de vivre le présent. C'est ça l'essentiel. Après tout, le présent, c'est le moment où je suis en train de vivre. Donc c'est quand même extrêmement important pour moi. Et si je détruis ce présent au nom d'un futur hypothétique désastreux, je perds tout à la fois. Donc la question c'est ici et maintenant, quelle est ma vie? Et puis demain, eh ben on verra. À chaque jour suffit sa peine. Mais ne pas en rester là pour autant, puisque Jésus conclut en disant « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et cherchez d'abord la parole de Dieu, qui elle est source d'inspiration, de consolation et de confiance. » Et puis l'autre réponse temporelle de l'Évangile qui m'a semblé intéressante, c'est toutes ces paraboles agricoles qu'il y a dans l'Évangile, comme cette petite parabole du grain de moutarde, par exemple, effectivement, qu'on a en Matthieu 13, 31, où il est question de quelque chose qui grandit. Parce que le temps, c'est aussi le temps de la croissance, le temps de l'évolution. Et dans la vie humaine, on n'a rien tout de suite. Pour tout, il faut du temps pour grandir, du temps pour construire, du temps pour arriver à une certaine maturité, voire du temps pour arriver à une certaine sagesse. Et si certains ont la grâce de vivre jusqu'à 80, 90 ou 100 ans, c'est parce que, eh bien, il faut beaucoup de temps pour arriver à une réelle sagesse par rapport à la vie, par rapport à ce qui se passe. Et ce temps de la vieillesse n'est pas un temps négatif du tout, c'est un temps de croissance. Parce qu'en fait, physiquement, d'accord, on grandit jusqu'à 20 ans, après on se dégrade, bon ça c'est d'accord. Mais cela dit, intérieurement, on grandit jusqu'à son dernier jour, où on arrive à croître en sagesse, en étant capable de discerner l'essentiel du secondaire et de trouver ce qui compte, ce qui reste, ce qui demeure, et ce qui vaut quelque chose et ce qui ne vaut rien. Donc c'est ça la composante positive du temps, qui n'est pas du tout un ennemi, mais qui est notre allié, en fait. Le temps n'est pas qu'une angoisse, c'est une chance pour qui sait l'utiliser. Si je reviens toujours sur mon art d'accommoder les restes, si vos invités arrivent au moment où vous ouvrez la porte du frigo, ça va être très compliqué. Mais si vous avez une heure ou deux pour vous en tirer, vous y arriverez beaucoup mieux. Et puis surtout, je crois que l'Évangile nous montre qu'il y a un but beaucoup plus créatif que juste profiter de la vie. Et ça, c'est de produire du fruit. C'est ça toutes ces paraboles agricoles. Il dit, il y a du temps, et au début, vous voyez peut-être pas où tout cela va mener, hein, parce que vous avez une petite graine de moutarde, on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Mais en fait, le but ultime de ça, c'est que ça pousse et que ça donne du fruit. Donc voilà le but ultime de toute notre existence. C'est pas simplement de profiter de l'existence, de boire et de manger, mais c'est de faire en sorte que tout cela soit au service d'un projet au-delà de tout, qui soit de transmettre, qui soit de donner quelque chose qui dure toujours et qui dure au-delà de nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut arriver à trouver. Je suis moi-même passager et même pour moi, j'ai un temps pour être et demain je ne serai plus. Et qu'est-ce qui demeure ? Ce que j'ai donné, ce que j'ai transmis. Et toute la vie doit être orientée vers là, c'est-à-dire vers le don. Et puis, peut-être la vocation ultime que nous donne encore cette parabole de la moutarde, là, c'est qu'il dit la graine, elle semble peu de choses au début, elle grandit, elle fait un arbre, et si grand que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Les oiseaux du ciel, c'est la colombe du Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit lui-même vienne habiter dans cette construction que je fais de ma vie. Et le but ultime de ma vie doit être, certes, de donner du fruit, mais aussi d'être la tente qui accueille un plus grand que soi, c'est-à-dire, comme dit Jean-Baptiste, il faut que il, Dieu ou le Christ, croisse et que moi, je diminue. Et quand moi, je diminue, je laisse de la place pour les autres et je laisse de la place pour un plus grand que moi, qui est Dieu. Et donc, le but ultime de tout cela, c'est d'être capable d'accueillir cette transcendance, parce que alors, tout ce chaud et froid du temps pour tout, pour vivre, mourir, aimer et haïr, tout ce chaud et froid est dépassé par quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité et qui est Dieu lui-même. Notre seule mission, en fait, c'est d'être porteur d'un esprit, du Saint-Esprit, qui est un esprit de vie, un esprit de joie, de paix, de sagesse, de bienveillance et d'amour. Amen. Thank you.